RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, Vladimir Poutine, impérialiste révisionniste.
La réponse d'Emmanuel Macron hier à son homologue russe après avoir été comparé à Napoléon. Déclaration à l'issue d'un sommet européen extraordinaire à Bruxelles sur la défense européenne. Une défense qui passera par les nouvelles technologies, notamment les drones, et c'est pour devenir l'un des géants du secteur en Europe que l'Italien Leonardo s'associe au Turc Baykar. Les explications dans ce journal. Au sommaire également, Donald Trump qui pour la première fois recadre son bras droit Elon Musk alors que les fonctionnaires américains sont licenciés par dizaines de milliers. Le président américain dit vouloir utiliser le scalpel plutôt que la hache. Des coupes dans les effectifs, dans les budgets, aussi à coups de milliards de dollars, et cela risque d'avoir des conséquences désastreuses. Résultat, les scientifiques se mobilisent aujourd'hui aux États-Unis, mais pas seulement. Ils donnent le coup d'envoi d'un grand mouvement baptisé Stand Up for Science.
Les 27 d'accord pour réarmer l'Europe.
Ils ont donné leur feu vert hier lors d'un sommet exceptionnel organisé à Bruxelles au plan de la Commission européenne et après l'annonce du gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine où des bombardements russes ont visé ce matin des infrastructures énergétiques. Un plan de 800 milliards d'euros qui permettra entre autres aux pays de l'Union européenne d'accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans le calcul de leur déficit. Une décision forte une semaine après la vive altercation entre Donald Trump, le président américain, et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. De son côté, Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à des discussions pour ouvrir le parapluie nucléaire français, a répondu à Vladimir Poutine, qui l'a comparé après son allocution de mercredi soir à Napoléon.
Je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais qu'il peut trahir les accords qu'il signe. Et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel, les garants par le processus de Normandie d'accord de Minsk qu'il a délibérément violé. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nous armer pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre.
Emmanuel Macron qui a également demandé le respect à Donald Trump. Nous sommes des alliés loyaux et fidèles, a déclaré le président français alors que le locataire de la Maison Blanche a remis en cause hier l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Notez par ailleurs qu'Emmanuel Macron réunira mardi prochain à Paris les chefs d'état-major des pays européens prêts à garantir une future paix en Ukraine. Le chef d'état français invite également ses homologues qui, je cite, souhaitent y participer.
Et justement, une défense européenne forte, c'est tout l'enjeu de la nouvelle entreprise créée par le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, et le turc Baykar, spécialiste de la fabrication de drones.
Oui, les deux sociétés ont annoncé hier avoir signé un protocole d'accord pour lancer une co-entreprise de fabrication de drones dont le siège sera basé en Italie. Un marché porteur qui devrait atteindre les 100 milliards de dollars dans les 10 ans à venir. Nicolas Feldman, ce partenariat, il ouvre un peu plus à la Turquie les portes du marché européen de l'armement.
La co-entreprise dont le siège sera basé en Italie a pour objectif de concevoir, développer, produire et assurer la maintenance de ses futurs drones. Pour le PDG du champion italien de l'aéronautique, Leonardo, l'Europe doit être plus forte dans ce domaine. Dans leur communiqué, les deux groupes estiment que le marché européen des drones, qu'il soit civil pour la surveillance ou strictement militaire, devrait atteindre 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. La société Baykar, dirigée par le gendre du président turc Recep Tayyip Erdogan, est aujourd'hui premier exportateur mondial de drones porté par son modèle phare, le Bayraktar TB2, vendu dans une trentaine de pays du Burkina Faso au Mali en passant par le Tchad. Ce partenariat avec le champion italien de l'aéronautique, Leonardo, devrait permettre au groupe turc de pénétrer un peu plus le marché européen de l'armement avec l'ambition de bâtir un leader sur le continent. Mais cette alliance devrait inquiéter les industriels, notamment français, qui plaident de longue date pour la création d'un champion européen du secteur, afin justement de ne pas se faire déborder par de nouveaux entrants, à l'instar du Turc Baykar.
Nicolas Feldman.
Minuit 5 à Washington aux États-Unis où Donald Trump met le holà.
Alors que les premières décisions de justice tombent pour s'opposer à la vague de licenciements massifs des fonctionnaires lancés par Elon Musk, le président américain a dit hier vouloir manier le scalpel plutôt que la hache pour les renvoyer. Il est aussi important de garder les gens les meilleurs et les plus qualifiés, a-t-il déclaré. Pourtant, depuis le début de la semaine, les annonces se sont succédées, jusqu'à 50 000 agents de moins au fisc, 70 000 au ministère des Anciens Combattants, le démantèlement du ministère de l'Éducation. Alors pourquoi un tel revirement? Les précisions à Washington pour RFI de Guillaume Nodin.
Donald Trump est un homme d'image et il a bien compris que celle d'Elon Musk brandissant sa tronçonneuse contre la bureaucratie n'est pas toujours bien perçue. Le président préconise désormais que le travail se fasse plutôt au scalpel qu'à la hache, explique-t-il dans une publication sur les réseaux sociaux. C'est pour bien le leur faire comprendre qu'il a réuni la plupart de ses ministres et le principal intéressé. Résultat, c'est bien aux ministres de décider qui sera viré et non pas à Elon Musk et à son équipe qui pourront néanmoins faire des recommandations ou effectuer un deuxième passage si les coupes ne sont pas suffisantes. Donald Trump tient à ce que les fonctionnaires les plus qualifiés et les plus productifs soient gardés dans les effectifs. Des incidents ont déjà eu lieu, comme le licenciement des personnes travaillant sur les programmes d'armes nucléaires qui ont dû être rapidement réembauchées. Surtout, le rôle officiel d'Elon Musk et du Doge, assez imprécis dans l'appareil gouvernemental, a entraîné des poursuites et des défaites devant les tribunaux. Mais Donald Trump le précise bien, l'objectif de dégraisser la fonction publique fédérale reste le même. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Donald Trump qui fait aussi baisser la tension avec le Mexique et le Canada. Il a finalement reculé sur les droits de douane de 25% qu'il avait imposé à ses deux voisins en les mettant en pause jusqu'au 2 avril. Autre décision, la réduction à 10% des droits de douane sur la potasse canadienne, un engrais très utilisé dans l'agriculture américaine. En revanche, rien ne change concernant la Chine. Conséquence, Pékin a promis ce matin de répondre fermement à la guerre commerciale lancée par le président américain après de premières annonces cette semaine de taxes allant jusqu'à 15% pour certains produits américains comme le soja, le porc et le blé à partir de lundi prochain.
Les États-Unis encore qui jugent que le plan de l'Égypte pour Gaza est un premier pas mais qu'il ne répond pas aux attentes de Donald Trump.
Le texte adopté mardi par les dirigeants arabes réunis au Caire prévoit la reconstruction de Gaza sans le Hamas mais avec un retour de l'autorité palestinienne chassée du territoire en 2007 et basée en Cisjordanie occupée, ce que refuse Israël. Il prévoit aussi le maintien des habitants de Gaza alors que Donald Trump souhaite les déplacer vers l'Égypte ou la Jordanie pour faire de l'enclave palestinienne, je cite, la Riviera du Moyen-Orient. Un plan salué par la France qui affirme que le Hamas doit être entièrement exclu de la future gouvernance de Gaza. Le mouvement palestinien s'est de son côté engagé hier à respecter l'accord de trêve avec Israël, tandis que dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé avoir effectué une frappe dans le nord de Gaza.
3 ans et demi après le début des attaques djihadistes dans l'extrême nord du Togo, les députés prolongent l'état d'urgence.
Déjà prorogé 3 fois dans la région des savanes frontalières du Burkina Faso, il interdit notamment les célébrations de mariage, les veillées funèbres, de prières et l'ouverture des bars après 20h, les explications de Magali Lagrange.
12 mois de plus, face à la persistance des menaces sécuritaires, l'état d'urgence est prorogé jusqu'en mars 2026 dans les savanes. Le projet de loi a été adopté hier à la majorité absolue par les députés réunis en session extraordinaire depuis mardi. Selon l'Assemblée nationale, il doit permettre au gouvernement togolais d'adapter sa riposte à l'évolution de la menace, de renforcer la protection des citoyens et de leurs biens et de préserver davantage l'ordre public et l'intégrité du territoire. L'état d'urgence sécuritaire est en vigueur depuis juin 2022 dans les savanes. C'est la 4e fois qu'il est renouvelé. Cette région de l'extrême nord, frontalière du Burkina Faso, est confrontée à des attaques depuis plus de 3 ans. Il est toutefois difficile d'avoir une vision précise de la situation. Les autorités togolaises ne communiquent que très rarement sur les attaques dans le nord. Les derniers chiffres officiels donnés par le gouvernement faisaient état de 31 morts sur l'année 2023.
Magali Lagrange.
Dans le nord-ouest de la Syrie, le bilan des affrontements entre membres des forces de sécurité et combattants fidèles à Bachar al-Assad s'alourdit.
Au moins 70 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de blessés aussi. Ça se passe dans la région de Latakia, ancien bastion de l'ex-président. Et d'après l'ONG, ces affrontements sont les plus violents depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier. Un ancien chef des services de renseignement de l'armée de l'air a quant à lui été capturé et arrêté, accusé d'avoir commis des centaines d'assassinats à l'époque d'Hafez al-Assad.
Les scientifiques du monde entier dans la rue aujourd'hui.
Ils donne le coup d'envoi du mouvement Stand Up for Science, comprenez debout pour la science, mouvement lancé par des chercheurs américains menacés par l'administration Trump. On en parlait plus tôt. Fin de financement, disparition de données, inaccessibilité de serveurs, licenciement massif et démantèlement de grandes agences fédérales, des coupes d'effectifs et budgétaires massives dont les conséquences vont très vite se faire sentir, selon Juan Decle Barreto, spécialiste de la vulnérabilité climatique au sein de l'Union américaine des scientifiques préoccupés.
La saison des ouragans commence en juin. Les pilotes des avions, qu'on appelle les chasseurs d'ouragans, et qui volent à l'intérieur des ouragans pour mesurer leur trajectoire, la pression atmosphérique, la force des vents, eh bien ces pilotes, ils ont été licenciés. Cela signifie qu'il n'y a plus personne capable de piloter ces avions, de collecter ces données et de les intégrer dans les modèles de prévision. Mais si nous n'avons plus d'informations qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'un ouragan touchera terre, quelle sera sa force et à combien de mètres s'élèvera la mer qui submergera le littoral, alors comment une famille, un maire ou un gouverneur sauront-ils quand il faudra évacuer ou ouvrir des abris provisoires? Beaucoup de gens seront sans protection. Nous courons à la catastrophe.
Des propos recueillis par Stéphanie Schuller. On termine ce journal en musique avec un concert exceptionnel ce soir à la scène musicale près de Paris, celui d'une légende de la musique, l'un des tout premiers jazzmen africains connus dans le monde entier, Abdoulaye Ibrahim, Edmond Sadaka.
Durant le régime de l'apartheid, la musique d'Abdoulaye Ibrahim était perçue comme un symbole de liberté. L'un de ses morceaux, Mannenberg, était même devenu un hymne national officieux du pays et il avait été joué lors de l'intronisation de Nelson Mandela en 1994. La liste des collaborations d'Abdoulaye Ibrahim est impressionnante, de Duke Ellington à John Coltrane en passant par Ornette Coleman, entre autres, des collaborations qui, de toute évidence, n'ont en rien entamé sa modestie.
Je ne suis qu'un élève comparé à tous ces grands maîtres, mais vous savez, j'ai souvent été influencé par des artistes peu connus et parfois même totalement inconnus. Tous m'ont apporté énormément et m'ont permis de m'exprimer pleinement grâce à la musique.
Les mélodies d'Abdoulaye Ibrahim sont élégantes et souvent empreintes de spiritualité. Ce vendredi soir à la scène musicale, il jouera quelques-uns de ses classiques, mais aussi des compositions extraites de son dernier album en date, Solitude.
Abdoulaye Ibrahim en concert ce soir à la scène musicale près de Paris, c'est complet. Il sera aussi le 30 mars à Weimar, en Allemagne.
Et c'était Alban Le Prince pour le journal. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Vendredi 7 mars 2025, RFI Matin, 3 heures d'information. Et l'Europe prête à se réarmer à la une aujourd'hui face à la menace russe et aux menaces d'abandon des États-Unis renouvelées hier soir par Donald Trump. Le feu vert des 27 au plan de la Commission européenne pour mobiliser 800 milliards d'euros pour la défense du vieux continent. Il n'était en revanche que 26 sans la Hongrie pour réaffirmer le soutien de l'UE à l'Ukraine. On fait le point de ce sommet à 6 heures, temps universel, avec notre envoyé spécial, Anastasia Becchio. L'actualité ce matin, c'est aussi le volte-face de Donald Trump dans sa guerre commerciale. Les droits de douane imposés au Canada et au Mexique, suspendus jusqu'au 2 avril. Rien ne change pour la Chine qui promet ce matin de répondre fermement à ses pressions. Le président américain qui appuie aussi sur le frein au sujet des licenciements de fonctionnaires. La hache plutôt que le scalpel, a dit Donald Trump hier soir. Alors qu'aujourd'hui, la communauté scientifique entre en résistance aux États-Unis.
Notre droit au savoir constitue la base de notre engagement citoyen et de notre participation démocratique. Quand l'administration coupe sciemment l'accès aux informations scientifiques et nous enlève donc notre droit au savoir, cela équivaut au démantèlement de la démocratie.
Contre la fin des financements, les démantèlements de grandes agences fédérales, la disparition de données ou des serveurs rendus inaccessibles, une marche debout pour les sciences aujourd'hui aux États-Unis, on en parlera tout à l'heure. RFI Matin, au sommaire également, les dessous de l'infox et les fausses infos qui pullulent depuis une semaine autour des tensions entre Trump et Volodymyr Zelensky. Dans notre reportage international, reportage à Naplouse, ville de Cisjordanie occupée qui craint d'être la prochaine cible de l'offensive israélienne dans le territoire. Et puis il signe un rapport sur la prédation des minerais dans l'est de la République démocratique du Congo, son rôle dans les conflits qui ravagent cette zone. Le diplomate Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de France à Kinshasa, est notre grand invité Afrique dans une demi-heure. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie nous emmène en Birmanie. Un peu plus de 4 ans après le coup d'État, les militaires qui se sont emparés du pouvoir continuent aujourd'hui de faire face à une myriade de groupes armés ethniques et enchaînent les revers, affaiblis militairement, isolés sur la scène internationale. Le chef de la junte Min Aung Hlaing s'est rendu cette semaine en Russie. Une rencontre entre deux alliés stratégiques, suivie de près par les analystes et par vous, Yelena Tomic, bonjour.
Bonjour.
Dans quel contexte s'est déroulée cette 4e visite officielle du chef de la junte en Russie et son 2e tête-à-tête avec Vladimir Poutine?
Eh bien, il faut savoir, Julien, que l'un des piliers des relations russo-birmanes, c'est la coopération militaire. Depuis le coup d'État en 2021, profitant du vide laissé par les sanctions occidentales, eh bien, la Russie est devenue le premier fournisseur d'armes de la Birmanie, surpassant même la Chine qui joue depuis quelque temps la prudence en cherchant à équilibrer ses relations avec la junte d'un côté et les groupes ethniques armés de l'autre près de sa frontière. Moscou a ainsi livré à la junte des avions de chasse, MiG et Sukhoi, des hélicoptères et des drones, et formé des officiers birmans dans ses académies militaires. Cette coopération a permis à la Birmanie de réduire en partie sa dépendance envers la Chine, qui reste cependant son principal partenaire économique. Et côté russe, eh bien le soutien militaire et politique à la junte lui offre une porte d'entrée stratégique en Asie du Sud-Est, une région où elle cherche à contrer les influences américaines et chinoises.
Des contrats ont été scellés cette semaine au Kremlin. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Eh bien, en l'absence de détails précis, car ce genre de documents, vous imaginez bien, reste souvent confidentiel, il semblerait que les deux pays aient signé une dizaine de contrats dans les domaines militaires, économiques et énergétiques, comme cet accord sur la construction par Rosatom, l'agence russe de l'énergie nucléaire, d'une petite centrale nucléaire dont on ne connaît pour l'instant ni la localisation exacte ni le calendrier. Autre annonce, la confirmation d'un accord portant sur la zone économique spéciale de Dawei, dans la région de Tanintari, dans le sud-est de la Birmanie, qui inclut la construction d'un port, d'une raffinerie de pétrole et d'une centrale thermique au charbon.
Mais la guerre civile qui ravage le pays risque de compromettre tous ces projets, aussi bien côté russe que côté chinois.
Alors oui, le développement du port de Dawei soutenu par la Russie est plus que compromis en raison des groupes ethniques armés qui gagnent du terrain et qui contrôleraient, selon les analystes indépendants, désormais plus de 60% du territoire. Même chose dans les Tarakines, où les affrontements ont déplacé récemment 15 000 personnes et où les infrastructures clés chinoises sont aussi menacées. Il s'agit du projet de Kyokpyu, qui fait partie des nouvelles routes de la soie et du corridor économique Chine-Birmanie, qui vise à créer un port en eau profonde, des oléoducs et gazoducs, ainsi qu'une liaison ferroviaire qui devrait relier Kunming dans le Yunnan et offrir à la Chine un accès direct à l'océan Indien. Eh bien, la construction et l'exploitation de ces infrastructures est aujourd'hui entravée par l'avancée de l'armée d'Arakan, qui rend plus que jamais incertaine la viabilité du projet.
À la une en Asie, Yelena Tomic, merci beaucoup.
RFI Matin.
6h18 à Paris et Bruxelles, où les Européens ont décidé hier de se réarmer. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Votre invité ce matin est ambassadeur représentant permanent de la France à l'OTAN.
Oui, David Svar, il est en poste depuis 6 mois et il peut observer le fonctionnement de l'Alliance, les secousses qui ne manquent pas depuis le début de cette nouvelle présidence Trump. Pas plus tard qu'hier, le président américain a mis en doute l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. En parlant des pays dits alliés, il a déclaré « s'il ne paie pas, je ne vais pas les défendre ». Dans ces conditions, est-ce que l'OTAN a encore un sens ? Est-ce qu'on assiste à la fin de vie de l'Alliance Atlantique ? Les États-Unis tournent le dos à l'Europe, à l'Ukraine. Le président américain se rapproche du président russe. Tout le monde le voit. Les Européens réagissent, vous l'avez dit, avec ce plan de réarmement. Le président français pointe la menace russe pour la France et pour l'Europe. Les choses bougent beaucoup et vite. On parle de tout ça avec David Svar, représentant de la France auprès de l'OTAN, dans une heure.
Le grand invité international avec vous, Arnaud Pontus. À tout à l'heure. We'll be right back. Et c'est l'événement à ne pas manquer pour les professionnels et les amoureux de la mode. Après les défilés de New York, Londres et Milan, Paris accueille la Fashion Week jusqu'à mardi. Des défilés aux quatre coins de la capitale pour présenter les collections automne-hiver des créateurs du monde entier. Il y a les grandes maisons qui figurent dans le calendrier officiel. Et puis en marge de l'événement, des marques plus confidentielles profitent de cette semaine d'effervescence pour présenter leur travail. Lucie Bouteloup nous emmène dans les coulisses du défilé de l'une d'entre elles. Reportage.
Il est 19h. Dans la pièce centrale de l'appartement haussmannien qui sert de showroom à Nicolas Besson, les mannequins se succèdent pour les essayages. Autour du styliste, son équipe s'active pour les derniers réglages. Et d'après le couturier, il y a encore pas mal de travail.
On a encore des looks attribués, il y a des pièces qui ne sont pas terminées. Donc on va devoir les terminer le jour même. Ça va être quelque chose. Moi, j'ai encore plein de pièces à terminer en retouche, des pièces aussi à faire. En fait, on a des changements en fonction des mannequins. On est obligé de changer même, de switcher les looks, d'interchanger des hauts, des tops, etc. Donc on est soit obligé d'en refaire, soit d'en retrouver pour pouvoir caler sur les mannequins.
Au total, 40 looks composent la collection du designer. Avec des pièces fortes dont la conception a commencé dès le mois de septembre, comme cette veste blanche à épaulettes et entièrement perlée.
Ça, il n'y a plus de 3 mètres de travail dessus sur celle-ci. C'est que des franges de perles qui ont été assemblées les unes après les autres, et ensuite après réincrustées dans une broderie esprit perlé, en plus en relief. C'est structuré après avec du crin, c'est énormément de travail. Énormément.
Tu peux te déshabiller, on essaye ça.
Les affaires, je les mets où exactement?
Mathieu, un jeune mannequin à la peau noire et à la silhouette élancée, commence sa séance d'essayage avec Marco, le styliste qui épaule Nicolas Besson.
Là, le stress commence un peu. Hein. Sur l'homme, on n'a pas encore bien défini qui va porter quoi. Donc, on va voir par rapport à les couleurs et à les coupes, qu'est-ce que ça va être mieux sur lui. Donc, on a cette veste drapée devant. Donc, par exemple, ça va pas.
Pendant ce temps-là, dans un autre coin de la pièce, Alexis, ordinateur posé sur les genoux et téléphone vissé à l'oreille, tente de régler les derniers problèmes. Debout depuis 4 heures du matin, il a dû faire un aller-retour Paris-Reims dans la journée pour aller chercher des housses pour les bancs sur lesquels vont s'asseoir les 230 invités. Le ventre vide, mais le sourire aux lèvres, il tente de terminer le placement autour du podium.
On attend pas mal de personnalité et c'est aussi un vrai casse-tête de pouvoir placer les gens influents en avant, d'autres personnes qui sont également influentes mais qu'on ne peut pas mettre en avant, placer des personnes encore plus au-dessus, sans froisser les gens, il y a des gens qui ne doivent pas être à côté, c'est une organisation.
Retour aux essayages. Après plusieurs tentatives, Mathieu, le mannequin, n'a toujours pas sa tenue. Le designer et le styliste tentent une nouvelle option, une veste en python et en résille.
Nicolas !
Ouais, moi je valide, c'est bon. Allez, go, photo.
Reste encore 6 silhouettes à trouver avant le matin. Pas de doute, la nuit promet d'être encore courte pour le designer et toute son équipe.
La Fashion Week à Paris, notre reportage France signé Lucie Bouteloum. Et un œil sur la suite de votre journée à l'écoute des RFI. Chaque vendredi, nous répondons à vos questions sur le travail de nos rédactions. Pourquoi RFI dit ça? Avec vous, Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Julien.
Cette semaine, ce sont les femmes qui vous intéressent. À la veille du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, vous vous demandez quelle est la place des auditrices sur RFI.
Sur RFI, nous avons des auditeurs plutôt que des auditrices, si l'on considère tous ceux et toutes celles qui nous écoutent dans les 7 capitales d'Afrique francophone où nous sommes diffusés, le constat est clair, 60% d'auditeurs, 40% d'auditrices. Alors, on n'est pas si loin de la parité, mais dans les émissions interactives de la chaîne, les femmes sont beaucoup moins présentes que les hommes pour réagir et pour débattre, qu'il s'agisse de 8 milliards de voisins ou d'appels sur l'actualité. Nous en parlons avec Emmanuel Bastide et Juan Gomez.
On a une autocensure du côté des femmes très nette. Timidité, manque de temps. Il faut pas oublier que les femmes gèrent plein de journées à la fois. Donc elles ont pas beaucoup de temps, sont pas très disponibles.
J'imagine que sur une émission politique comme Appel sur l'actualité, le constat, il est encore plus flagrant.
Ah ben, je vais être très clair. 1% de femmes, 99% de réactions d'hommes.
Autre sujet, Juliette, le 17e tour cycliste du Rwanda s'est achevé dimanche dernier. Rendez-vous important du cyclisme mondial. Cette compétition fait aussi polémique en raison du soutien de Kigali au M23 dans le conflit qui déchire l'est de la RDC. Ce tour dont on a parlé sur RFI, Juliette.
avec une couverture signée Thomas de Saint-Léger. Mais en raison du conflit en cours, la question de maintenir ou non cette couverture a occupé une véritable place à la conférence de rédaction ces dernières semaines, comme le rappelle Christophe Jousset, le chef du service des sports.
Il était naturellement hors de question de faire comme si le conflit n'existait pas, donc nous avons renoncé pour cette année à ce qu'on appelle la carte postale, ce direct qui peut se faire facilement sur un ton un peu léger. Ça aurait été évidemment totalement déplacé, hors de propos cette année, quand tant de gens sont dans la souffrance dans la région. Bien sûr, nous avons raconté la course, mais nous avons aussi rendu compte, rappelé aussi souvent que nécessaire, la situation sécuritaire et politique dans laquelle ce Tour du Rwanda a eu lieu.
Christophe Jousset dans Pourquoi RFI dit ça, et bien sûr la chronique de Frédéric Genot, Pourquoi RFI dit ça comme ça.
Et cette semaine, c'est presque Pourquoi RFI ne dit pas ça comme ça. On revient sur les injures, les grossièretés qui fleurissent ces derniers temps dans le monde. Doit-on traduire mot pour mot tout ce que disent les responsables politiques ou doit-on préserver les oreilles de nos auditeurs?
Rendez-vous à 11h10 et 19h40, temps universel pour le savoir. Merci Juliette Rangeval. Et bientôt 5h30 en temps universel sur la radio du monde avant le journal. Un peu de musique avec un homme qu'on ne présente plus, le grand Youssou N'Dour, et son nouveau titre No Fly. Ça signifie repos en Wolof.
Yalla koni def so beke sunu fly nangul koko nit ke lu muk am yalla koko jo nangul ko nit ke lu muk am yalla koko amal nangul ko nit ki lu muman yalla koko wan bombe kesa no fly nit ki lu muham yalla koko khamal sobe kesa no fly fa yalla ganun de fa dem sam ken du bok ak mo pour bi fami dogale ni neuf du fo dem nit ki du mel yalla ko ni def so beke sun of fly nagul koko
et le nouveau morceau de Youssou N'Dour ce matin sur RFI et dans notre sélection du mois que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute, à tout de suite.
Priorité santé, Caroline Paré.
Aujourd'hui, pour notre dernière émission au Sénégal en Casamance, nous nous rendons à l'hôpital régional de Ziguinchor pour comprendre avec les équipes les enjeux liés à l'accès à l'oxygène médical pour les insuffisances respiratoires, les nouveau-nés ou la réanimation. L'oxygène médical, un médicament essentiel selon l'OMS.
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Dans la guerre hybride, la structure même de l'Internet est touchée. Le routage des données et la souveraineté numérique sont affectés. Chercheur à Géode, centre de géopolitique de la datasphère, Louis Pétignot s'intéresse à l'Ukraine, aux mesures prises pour protéger son espace cyber et aux débats que cela suscite.
Les dessous de l'infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.